L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Eh oui, édition du jeudi 25 juillet 2024. Bienvenue dans le vestiaire au 92.5. Alors que c'est un jeudi quand même assez agité au niveau du sport. Beaucoup d'activités, évidemment. On parle de baseball, on parle de soccer. On parle également de Jeux olympiques. Hein? Ça commence officiellement demain avec la cérémonie d'ouverture. Mais il y a déjà quelques petites des compétitions qui ont commencé. Hein? On sait que c'est 14 à 16 jours de compétition. Mais pour d'autres, bien, faut quand même regarder le calendrier et s'assurer que tout puisse rentrer. Donc, il y a déjà des rencontres qui ont été disputées, dont celle entre le Canada et la Nouvelle-Zélande au niveau du soccer féminin. Après toute cette saga cette semaine d'espionnage par drone, il y a des sanctions qui ont tombé. Et bien, finalement, il fallait jouer ce match-là et l'équipe féminine de soccer du Canada qui a bien amorcé la défense de son titre. Hein, on sait qu'ils avaient été championnes en 2021. Et bien, face à la Nouvelle-Zélande, ils ont remporté une victoire de 2-1. C'est la Québécoise Evelyne Vien qui a marqué le but de la victoire à la 79e minute pour permettre au Canada de mettre la main sur 3 précieux points donc dans ce tournoi. La rencontre qui n'a pas débuté comme souhaité pour les championnes en titre. Après un coup de pied de coin, Mackenzie Barry a ouvert la marque pour la Nouvelle-Zélande dès la 13e minute. Mais on s'est ressaisi du côté des Canadiennes. On a obtenu plusieurs chances de marquer, dont quelques-unes orchestrées par la Québécoise Gabrielle Carl. Il y a quelques Québécoises à l'intérieur de cette équipe-là, puis c'est intéressant de les voir performer. On en parlera d'ailleurs avec Benoît Lavoie. Et également, le tournoi de sélection régionale qui se poursuit à Saguenay sur 4 terrains. Benoît Lavoie reviendra aussi avec ce tournoi, cette activité qui se poursuit jusqu'à samedi. Mais on poursuit dans les Olympiques. On en connaît davantage sur certaines compétitions et de la manière que le calendrier sera fait. C'est le cas du tennis, alors que Leila Ali Fernandez aura tout un défi pour son premier match de la saison. En fait, du tournoi, celle qui est 16e tête de série va jouer contre la Tchèque Karolína Muchová dans son match de premier tour. Muchová qui a été finaliste en France en 2023. Donc, elle semble quand même se débrouiller sur terre battue. On sait que ce tournoi sera fait sur terre battue. Muchová est 29e au classement mondial et a gagné le seul duel précédent entre les deux joueuses en 2022 sur surface dure à Miami. Alors, ce sera quand même un bon test pour Leilani Fernandez. Alors, on sait que si vous gagnez, vous passez au prochain tour. Si vous perdez, bien vos jeux sont tout simplement terminés. L'autre Canadienne en lice, Bianca Andreescu, va jouer contre la Danoise Clara Thorsen, 63e au monde lors du premier tour. Pour ce qui est des hommes, bien Félix Auger-Aliassime, 13e tête de série, va commencer son parcours contre l'Américain Marcos Giron, 38e mondial. On sait qu'Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale à Gstaad en Suisse la semaine dernière. Également connu une bonne saison et surtout sur terre battue. Finale au Masters de Madrid, ronde des 16 du côté de Roland Garros. Ce sera un 5e duel contre Giron où Félix Auger-Aliassime a remporté 3 des 4 duels. Et chose qui pourrait être intéressante lors du match de deuxième tour, si évidemment les deux l'emportent, Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient croiser le fer dès le deuxième tour en simple masculin. De la manière que c'est fait, c'est qu'on a conçu 5 tableaux de compétition. Et là, vous gagnez, vous passez au tour suivant, vous perdez, bon. Et on est allé à la pige. Tirage au sort. ce qui fait en sorte que, ben, il y a plusieurs grosses têtes qui se retrouvent dans le même tableau et qui pourraient s'affronter quand même assez haut. Et c'est le cas là, donc de Nadal et Djokovic, deux des plus grands hein, de l'histoire du tennis et des deux plus grands avec Federer depuis le début de ce siècle. C'est quand même assez surprenant. Alors, on verra ce que ça va donner. Donc, vraiment un choc qu'on pourrait voir au deuxième tour. L'Espagnol fait Nadal, qui est âgé de 38 ans, qui a remporté 14 fois les internationaux de France, a baissé pavillon contre Zverev dès le premier tour en mai dernier. Parce que Zverev, champion en titre, lui va commencer contre l'Espagnol Jaume Munar. On sait que Nadal a remporté l'or en simple en 2008 à Pékin et en double masculin avec Marc Lopez en 2016 à Rio. Pour ce qui est de Djokovic, bien lui, c'est une seule médaille remportée. C'est en 2008, le bronze, donc à Pékin, où il a remporté en simple. Mais il a tout de même remporté 24 titres majeurs, ce qui est le plus grand total chez les hommes, dont 3 aux internationaux de France. Lâchons un peu les Olympiques et allons faire un tour ailleurs. Ce qui se passe, eh bien, on parle beaucoup de baseball, évidemment. Les voyageurs qui seront en action ce soir du côté de Québec pour affronter les Diamants. Ce sera un affrontement intéressant puisque, bon, les Diamants sont sur une excellente séquence de 8 victoires consécutives. Pour ce qui est des voyageurs, eh bien, ils voudront reprendre là, un peu de poil de bête et après une semaine un peu difficile où ils ont remporté une victoire sur 6 la semaine dernière. Donc, ce sera un affrontement intéressant et toujours intéressant ces affrontements contre les équipes de la même section. Québec qui a surpassé Trois-Rivières avec une victoire de 1-0 hier. Ça, c'est quand même là, intéressant. Là, un match qui n'a même pas duré 1h30. 1-0. 3 coups sûrs qui ont été faits. 2 par Québec, 1 par Trois-Rivières. Ça a été littéralement un duel de lanceurs. Québec qui est sur une séquence de 9 victoires consécutives et devance maintenant Trois-Rivières, donc à 2 matchs d'avance. Alors, de 22 victoires et 9 revers pour Québec. Pour ce qui est de Jonquière, 15 victoires et 17 défaites. C'est Thomas Otis qui sera le lanceur partant pour les voyageurs. Il a une victoire et aucune défaite en 4 départs cette année, mais il a quand même fait 7 présences au Monticule, 16 manches et un tiers de lancer, où il a donné 19 coups sûrs, 15 buts sur balle et réussi 8 retraits au bâton. Il a une moyenne de points mérités de 4,28. On sait que l'an dernier, il avait connu une très belle première saison dans la LBJEQ avec 7 victoires et 3 défaites. Pour ce qui est de son adversaire, bien, c'est Nathan Pelletier-Aubert. Cette année, il a une fiche de 3 victoires et une défaite. C'est un jeune lanceur qui en a sa première année dans le baseball junior élite. Moyenne de points mérités à 2,67 et ce sera seulement un deuxième départ pour lui cette saison. Il a fait 5 apparitions au total, 18 manches et un tiers lancé où il a donné 6 buts sur balle et 15 coups sûrs et réalisé 12 retraits au bâton. On reste dans le baseball, bien les rumeurs se poursuivent pour ce qui est des transactions dans le baseball majeur. On sait qu'on a jusqu'à mardi prochain, le 30, pour réaliser des échanges. On sait que du côté de Toronto, ça va bouger. Il y a des joueurs qui pourraient quitter. Et selon un panel de 8 dirigeants et dépisteurs d'équipes rivales, les Blue Jays devraient échanger Vladimir Guerrero Jr. Jesse Rogers d'ESPN qui a écrit jeudi que les personnes interrogées croient que les Blue Jays devraient maximiser la valeur de leurs joueurs vedettes et on dit qu'il n'y a qu'à arracher le pansement et à échanger Guerrero. Est-ce qu'ils vont le faire? Si on échange Guerrero, on échange littéralement le cœur de cette équipe-là. On sait que depuis le retour du match des étoiles, il est tout feu tout flamme. Même si les Blue Jays ne gagnent pas souvent, bien Guerrero fonctionne à fond de train. Sa moyenne au bâton est de 296. Il a maintenant 18 circuits, 62 points produits, un total de 115 coups sûrs en 100 rencontres. Hier, il a encore bien fait dans la victoire des Jays contre les Rays de Tampa Bay. Alors, est-ce qu'on accepterait de briser ce moule-là et de recommencer, en fait, de refaire une reconstruction, disons, complète, parce que d'échanger Guerrero, c'est de repartir complètement à zéro. Ça sera à suivre, mais j'ai un peu de misère. Puis on va en parler avec Michel Bureau en fin d'émission. Est-ce qu'on devrait échanger Guerrero? Moi, je ne suis pas sûr. En fait, je ne pense pas que Michel va être d'accord. Mais Rogers, Jesse Rogers a ajouté que les Mariners devraient appeler tous les jours pour en savoir davantage. On écrit également que de nombreux membres du panel ont également convenu que les Jays ont beaucoup de vétérans et ne seraient pas en mesure de démarrer facilement une reconstruction, même s'ils vendent Guerrero, Bichette ou toute autre pièce maîtresse. On sait, on pense au José Berríos, au Chris Bassitt, au Josh Springer. Ce sera intéressant. D'un côté, on devrait échanger Guerrero, qui a probablement la meilleure valeur. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on devrait faire de Guerrero le joueur franchise de l'équipe et se concentrer autour de lui? De la manière qu'il joue actuellement, on devrait se concentrer autour de lui. T'es notre joueur concession? On va te donner un contrat à vie, une manière de dire. Sortez l'argent et payez-le. Moi, personnellement, on le trouve spectaculaire. Bon, évidemment, on connaît la famille. Le papa qui a joué à Montréal durant de nombreuses années, il avait du succès. On connaît le talent de Junior au premier but, capable de frapper la balle à profusion. On le voit d'ailleurs dans les derniers matchs. Là, je pense qu'il y a 6 circuits dans les 10 ou 11 derniers matchs. T'as un joueur de talent. Garde-le, signe-le, donne-lui. Ça va coûter 300 millions, ça coûtera 300 millions, mais payez-le. Puis autour, construisez autour. Je pense que c'est la chose à faire, même si c'est lui qui a la plus grande valeur. Est-ce que les Jays seront en mesure de toucher ce qui est nécessaire pour une bonne reconstruction rapide et efficace? À suivre là-dessus. Également, un peu partout ailleurs dans le baseball, il y a plusieurs noms qui pourraient bouger. Et il y a plusieurs équipes qui pourraient bouger, et c'est le cas des Yankees de New York. Qu'est-ce qui se passe chez les Yankees? Je ne sais pas si vous avez écouté le match hier, mais c'était catastrophique, cette rencontre à domicile face aux adversaires de la même ville, les Mets, qui se sont littéralement foutus de la gueule des Yankees avec une victoire de 12-3 au Yankee Stadium, une poussée de 6 points en 8e qui a vraiment fait mal. La balle a énormément voyagé dans cette rencontre. Tyrone Taylor a frappé la balle, a frappé la longue balle à une reprise. Francisco Lindor l'a frappé 2 fois. Marc Vientos l'a fait également. Chez les Yankees, on a frappé la longue balle aussi. Il y a eu 2 circuits, mais 2 circuits de 1 point. C'était pas vraiment suffisant. Mais les Mets, là, et on voyait plusieurs visages longs dans les gradins des Yankees de New York. Parce que dans les 70 premiers matchs, presque, on a eu une séquence à un moment donné. Les Yankees allaient vraiment bien jusqu'au 15 juin. On avait un dossier de 50 victoires et 22 défaites dans les 72 premiers matchs de la saison. 50 victoires et 22 défaites. Le problème, c'est que dans les 30 derniers matchs, même pas 30 derniers matchs, dans les 28 derniers matchs, c'est 8 victoires et 22 défaites que les Yankees ont accumulées. Alors, on est maintenant à 60-44, alors qu'on était à 50-22. Alors, c'est 22 défaites dans les 32 derniers matchs. C'est pas du tout la même fiche. Et on parle quand même de défaites cinglantes, là, tu sais. Défaite de 17-5 contre les Orioles de Baltimore. Le lendemain, 8-1 contre Atlanta. Il y a des défaites de 12-2. Écoute, la défaite d'hier de 12-3 contre les Mets, on s'était fait planter 12-2 contre les Mets un peu plus tôt, à la fin du mois de juin. Le lendemain, on perd 9-2 contre Toronto. Il y a une autre défaite de 9-3. Un peu plus tôt cette semaine, 9-1, la défaite contre les Rays. Ce sont des grosses défaites qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir en début de saison. On voyait plutôt des victoires à profusion. Mais là, on perd des matchs et on perd des matchs à gros pointage. Qu'est-ce qui se passe du côté des Yankees? On se pose la question. Chez les Dodgers, est-ce qu'on pourrait bouger également? Ça serait intéressant de suivre le travail des Dodgers, qui sont toujours en tête de la section ouest de la Nationale. 7,5 matchs devant les Padres. Un dossier de 61 victoires et 42 défaites. Évidemment, quand on regarde les gros noms, Shohei Ohtani, rien à dire. Moyenne de 310, 30 circuits. Teoscar Hernandez, peut pas concevoir que les Jays se sont débarrassés d'Hernandez, qui a 21 circuits et 67 points produits. On a Freddie Freeman qui va bien. Bon, Mookie Betts est sur la liste des blessés, mais avant sa blessure, frappait pour une moyenne de 304. Et l'autre bonne nouvelle qu'on peut dire, c'est que, bon, au Monticule, il y a quelques blessés. Hein. James Paxton est blessé, Landon Knack également, Walker Buehler est sur la liste des blessés pour une quinzaine de jours, Yoshinobu Yamamoto, lui, il est sur la liste des blessés à long terme. Mais la bonne nouvelle qu'on a apprise, c'est que le lanceur Clayton Kershaw pourra effectuer son premier départ de la saison dans les prochaines journées. Je pense même que c'est ce soir ou demain. Alors, ça va être quand même intéressant de suivre ça. Donc, le retour de Clayton Kershaw qui soignait une blessure depuis le début de la saison. Et là, bien, va effectuer son premier départ. Kershaw qui a joué toute sa carrière avec les Dodgers, une carrière de 16 saisons où il a 210 victoires. 92 défaites seulement, 3 trophées Cy Young. On parle quand même de 2 saisons de 21 victoires. On l'a connu dans sa pleine domination. Est-ce qu'il est encore le même lanceur aussi dominant rendu à 36 ans? Ce sera à suivre, mais il effectuera un retour, le gaucher, au cours de la fin de semaine. Un exploit qui est survenu cet après-midi dans le match entre les Padres de San Diego et les Nationals de Washington. Bien, ça vient tout juste de se terminer et là, c'est confirmé. Un match sans points ni coup sûr pour le lanceur des Padres de San Diego. De son nom, c'est Dylan Keuchel qui a réussi là, donc, ce match sans points ni coup sûr. Sa 10e victoire de la saison. Il a 8 défaites, pas de coup sûr, 9 retraits au bâton. Match complet dans ce gain de 3-0 des Padres sur les Nationals de Washington. Alors, belle performance. Un match sans points ni coup sûr qu'on va voir de moins en moins, on va se le dire, parce que, bon, c'est très rare qu'on envoie un lanceur faire un match complet. On voit de moins en moins ça. Mais là, on a réussi à le faire. On a eu confiance. On l'a laissé poursuivre. Aucun coup sûr contre les Nationals. Victoire des Padres, 3-0. Les Blue Jays sont en action actuellement. Ils tirent de l'arrière 1-0 contre les Rays de Tampa Bay. On est en fin de deuxième manche. Donc, c'est un match qui est quand même assez serré. Alors, est-ce qu'il y a moyen de suivre ça du côté de la télévision? Je ne crois pas, non. Alors, on n'a pas le match actuellement à la télévision sur les postes qu'on a normalement. Parlons un petit peu de hockey, tiens, avant d'aller rejoindre Benoît Lavoie et parler de soccer, les Flyers de Philadelphie qui viennent d'assurer, la fin de carrière de Travis Konecny. Il devient un peu le joueur concession de l'équipe. Prolongation de contrat de 8 ans et 70 millions de dollars. Donc, Konecny qui va toucher un salaire annuel de 8 750 000 dollars à compter de la saison 2025-2026. Donc, du côté de Daniel Brière, on dit que Konecny est une partie intégrante du noyau de notre équipe de son équipe, et ils sont ravis de l'avoir mis sous contrat à long terme. Konecny est âgé de 27 ans. Il a mené les Flyers l'an dernier avec une récolte de 68 points en 76 matchs, dont 33 buts. Évidemment, Konecny s'est dit très heureux de signer un nouveau contrat avec les Flyers. C'est quand même bien mérité pour ce joueur qui a été repêché en 2015 par les Flyers, 24e au total. 400 points en 564 rencontres dans la Ligue, tous avec les Flyers de Philadelphie. Les Islanders de New York et leur attaquant Oliver Wahlstrom évitent l'arbitrage. Se sont entendus aujourd'hui sur une entente d'un an et 1 million de dollars. Les Islanders avaient 50 000 dollars de disponibles sous le plafond salarial avant la signature. Et ça signifie maintenant que les Islanders seraient présentement 950 000 dollars au-dessus du plafond salarial si Wahlstrom se taille un poste avec l'équipe. Le choix de premier tour en 2018 de l'équipe a joué 32 matchs la saison dernière, amassant 2 buts et 4 mentions d'aide. On poursuit dans la Ligue nationale. Eh bien, la saga des Coyotes n'est pas terminée. Et si on ne tient qu'au propriétaire des Suns de Phoenix, Matt Ishbia, l'Arizona ne se retrouverait pas sans hockey de la Ligue nationale, on dit bien longtemps. Le site spécialisé en finances sportives Sportico a rapporté hier que Ishbia tentera de raisonner les têtes pensantes du circuit Bettman, même s'il est conscient qu'il faudra d'abord laisser la poussière retomber. Les Coyotes qui ont été relocalisés à Salt Lake City un peu plus tôt cet été dans l'État de Utah, et l'équipe y disputera sa première saison à compter du mois d'octobre. Il possède, lui qui est âgé de 44 ans, possède la franchise des Suns de Phoenix, possède également la franchise de la WNBA qui est basé à Phoenix, le Mercury. Et l'amphithéâtre où est basé le Mercury, le Footprint Center, a accueilli samedi dernier le match des étoiles du baseball féminin. Un complexe d'entraînement d'une valeur de 100 millions de dollars US a été entièrement payé par l'homme d'affaires, également bâti derrière l'aréna. Alors, il croit que cette aréna est déjà de première classe. Il l'adore et se réjouit du fait que le Footprint Center. Mais il est vrai cependant qu'à un certain point, il faudra se doter d'un nouvel amphithéâtre. Et il dit qu'il fait partie de cette communauté de gens qui tentent de ramener le hockey professionnel en Arizona et se dit très intéressé par ce projet. Phoenix, on dit, est une ville de 4 sports majeurs, mais déçu qu'ils n'ayons pas plus d'équipes de hockey, mais il comprend que c'est passé, mais un jour, il va tenter de rectifier le tout. Ah, ça finit pas, hein? Le hockey envers Phoenix, là... C'est sûr que si tu n'as pas des bases solides, si à chaque année, tu as toujours l'incertitude si ça va revenir, si ça va déménager, si ça va jouer dans un aréna. Ça a été ça, les Coyotes, dans les dernières années. On a réglé le problème. On a vendu le club en Utah, du côté de Salt Lake City. C'est sûr que c'est un homme d'affaires comme celui des Suns, Matt Ishbia. Mais si tu étais vraiment intéressé, pourquoi tu ne l'as pas acheté avant? Moi, c'est ce que je me dis. Bon, ce sera un dossier à suivre. Dossier réglé également, on avait quelques joueurs qui allaient être éligibles à l'arbitrage dans la Ligue nationale de hockey, et c'est le cas du gardien Ukko-Pekka Luukkonen. Ben, oubliez ça, et son avenir est maintenant assuré également. Prolongation de contrat de 5 ans et 23,75 millions, donc 4 750 000 $ par année pour le gardien de 25 ans, qui s'était imposé l'an dernier comme gardien numéro 1 des Sabres. 54 sorties, un sommet en carrière, dossier de 27 victoires, 22 défaites et 4 défaites en surtemps. Moyenne de buts alloués de 2,57 et un taux d'efficacité de 910. Luukkonen, qui a été un choix de deuxième ronde de l'équipe en 2017, était joueur autonome avec compensation après avoir écoulé la dernière année de son contrat d'entrée. Luukkonen a 100 matchs dans la Ligue nationale, 47 victoires et une moyenne de buts alloués de 2,97. Bien de discuter avec Jean-Michel Tremblay demain de Formule 1 parce que pour le Grand Prix de Belgique qui aura lieu ce week-end, eh bien, le Néerlandais Max Verstappen, qui est meneur au championnat du monde de Formule 1 mais qui n'a pas gagné à ses 3 dernières courses, sera, on dit, très probablement pénalisé de 10 places sur la grille de départ. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on aurait fait un changement de moteur. Et ça fait en sorte que, bon, ben, on est puni pour ça. L'information n'a pas encore été confirmée ni par l'équipe, ni par les commissaires de course, mais le triple champion du monde en titre devrait recevoir cette pénalité si notamment un cinquième moteur à combustion interne, au-delà des 4 autorisés par année, est installé donc sur sa Red Bull au cours du week-end. Lorsqu'il a été interrogé par la presse à la veille de la 14e manche de la saison, il dit « Je savais que ça allait arriver ». Ce n'est pas une surprise pour lui. Il y a certains circuits qui sont naturellement plus propices que d'autres pour recevoir cette sanction. Et sur un circuit urbain où les dépassements sont plus difficiles, on ne veut pas de pénalité pour le moteur. Donc oui, ce sera dit probablement qu'ici, on sait que le circuit de Spa-Francorchamps, qui est un circuit très grand, très rapide, également beaucoup de dépassements. Ça serait quand même intéressant de voir la course, même s'il part au-delà de la 10e place, de faire une remontée. Mais c'est ce qu'on veut voir du côté de la Formule 1. Et confirmé, le pilote français Esteban Ocon, qui évoluait avec l'équipe Alpine depuis 5 ans, va s'en aller avec Haas. Il y avait plusieurs rumeurs qui allaient vers cette direction, mais là, ça a été compliqué. Ça a été confirmé, pardon. Donc, à compter de la saison prochaine, en marge du Grand Prix de Belgique, donc on a annoncé. Il se dit très ravi d'entamer ce nouveau chapitre de sa carrière de Formule 1. Lui qui est âgé de 27 ans, c'est la recrue Oliver Bearman qui sera son coéquipier, qui est actuellement en Formule 2. Ocon a disputé 146 Grands Prix à ce jour, connaîtra sa 4e écurie en Formule 1 après Maynard, où il a disputé la seconde moitié de la saison 2016. Force India, Renault, devenu Alpine depuis 2020. Alors, ce sera un nouveau défi pour Esteban Ocon dès l'an prochain. 15h54, on va à la pause. Dans quelques instants, il sera question de soccer. Beaucoup de choses à parler au soccer. Le dossier d'équipe Canada féminin, le dossier également du côté des sélections régionales qui se déroulent du côté de Saguenay. Et tout juste avant, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler d'une signature, en fait, deux signatures qui ont été faites cet après-midi chez les Marquis de Jonquière. Et bien, on se prépare pour la prochaine saison. Ça se poursuit, la vague de signatures. Et on aura deux nouveaux visages. Mais en fait, un nouveau visage et un retour après quelques années dans la formation. Eh bien, les Marquis ont annoncé la signature du joueur autonome Kevin Dufour, qui est un ailier de 32 ans, natif de Québec. Lui qui a terminé son niveau collégial en sol québécois, s'est expatrié aux États-Unis pendant 8 saisons. Il a évolué en NCAA et en East Coast. Il est de retour au pays depuis maintenant 3 ans, où il a évolué dans une ligue senior du côté de la Saskatchewan. Et là, bien, il va effectuer un retour au Québec. On dit qu'il avait été en contact avec l'équipe depuis l'an dernier. Il a en fait un peu de sang sanguin puisque son père est natif de Saint-Nazaire. Il a beaucoup de famille dans le coin. Alors, il se dit très heureux de signer. Et l'autre, bien, qui va effectuer un retour après 5 ans d'absence, c'est l'attaquant natif de Dolbeau-Mistassini, Simon Tremblay, qui a joué 3 saisons de 2016 à 2019 avec les Marquis et depuis jouait dans la Ligue d'hockey senior du Lac-aux-Fleuves et le senior 3A avec la TUC. Il a remporté le championnat de ces deux ligues la saison dernière avec Dolbeau-Mistassini et la TUC. Donc, il effectuera donc un retour, lui qui est maintenant âgé de 29 ans. On parle quand même de beaucoup d'expérience et dans son séjour loin des Marquis, il a excellé surtout au niveau offensif avec une moyenne de points par match qui est supérieure à 2. Alors, un joueur capable d'aller chercher de l'offensive et ça mènera donc au camp d'entraînement. Donc, Simon Tremblay et Kevin Dufour, les deux dernières signatures des Marquis de Jonquière. La pause, au retour, le soccer avec Benoît Lavoie.
Arrêt de jeu. Oh! Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Chez Tôle du Royaume, nous avons les meilleurs prix parce que nous sommes les seuls à fabriquer du revêtement d'acier dans la région. Exemple, besoin de revêtement d'acier pour toiture et murs extérieurs, 4 couleurs de disponibles feuilles de 8 pieds à 36 $ ou 1,50 $ du pied carré. Économisez de l'argent. Achetez du fabricant. Tôle du Royaume, 1200 boulevard du Royaume, voisin du centre de liquidation du travail.
Non seulement la fromagerie Boivin fait le meilleur fromage au monde depuis des générations, le meilleur petit crémeux, la meilleure poutine, elle fait aussi de la magie.
J'aime tellement le fromage Boivin que j'en mets même dans mes céréales.
La fromagerie Boivin, fabricant de souvenirs depuis des générations.
La prochaine chronique du groupe Forget Audioprothésiste aura lieu le lundi 29 juillet à 9h15 dans Simplement Bilodo. Nous discuterons de la perte d'équilibre en lien possible avec l'audition. Notre invité, Marc-Olivier Blackburn, audiologiste de Audio Santé. N'hésitez pas également à faire des dépistages préventifs auprès du groupe Forget Audioprothésiste, le centre de l'audition par excellence de la région.
Le 8 août prochain, ce sera la grande ouverture du métro Thibault, anciennement métro Sagami, dans sa toute nouvelle bâtisse. On engage. Viens porter ton CV maintenant. Le métro Thibault ouvrira ses portes le 8 août prochain. On vous attend.
Je sais pas si tu vas me crier, mais on dit entre les branches que le plus grand inventaire de pièces de voiture se trouve chez Pièces d'Autochoc.
Pièces d'Autochoc vous le confirme. Peu importe votre besoin, on a la pièce qu'il vous faut. Roues, mag, alternateur, transmission, phare, batterie, carrosserie. On a tout ça et même plus encore dans le neuf et l'usagé. Gardez votre voiture longtemps grâce à Pièces d'Autochoc, chemin de l'église, La Terrière, 545-0505.
Promo Thermacell chez Chasse-Pêche Chicoutimi. Obtenez le tout nouveau modèle pour $34,99, incluant
l'étui, les recharges et la tâche.
Chasse-Pêche Chicoutimi, coin autoroute.
On parle de soccer.
C'est pas seulement une grosse semaine dans le monde de soccer, c'est un gros mois. Il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América, et là, ben, ça se poursuit avec les Olympiques, avec le tournoi des sélections régionales ici. Ben, pour en parler, ben, je pense que la meilleure personne dans la région, c'est notre responsable d'EspaceSoccer.com et collaborateur dans le vestiaire, Benoît Lavoie. Salut, Benoît.
Salut, Dom.
Commençons, tiens, par les sélections régionales qui ont débuté lundi, qui se poursuivent jusqu'à samedi. 40 équipes d'un peu partout au Québec, plusieurs centaines de joueurs et joueuses de 14 ans et moins qui parcourent les terrains ici à Saguenay pour être évalués, pour espérer être remarqués et avoir peut-être une chance dans des calibres supérieurs. Tu es allé faire un tour hier et depuis le début de la semaine, tu es allé visiter comment ça se passait?
Oui, ben, je suis allé d'abord à la cérémonie d'ouverture qui était super bien organisée avec Soccer Québec. Justement, après-midi, là, on a eu des gens de Soccer Québec qui sont venus voir Espace Soccer, sont venus prendre une bière, justement. Je tiens à les saluer, là, des responsables là, au niveau des médias, au niveau de l'organisation. Et donc, oui, ça a commencé tout ça avec la cérémonie d'ouverture qui était super bien organisée avec le protocole, les gens là qui ont au niveau de députés puis tout ça qui ont fait le petit mot, le petit message pour encourager nos jeunes, le mot de tout, c'est donc super bien été. Puis j'imagine aussi d'hommes que vous avez eu un chronique, quoi que vous n'avez parlé de vestiaire. Donc dimanche, moi je suis allé lundi, puis je suis allé hier voir des matchs mercredi, super belle ambiance, comme j'ai mentionné sur ma page Facebook, tout ça, Parc Saint-Jacques, bien installé, belle installation, tout ça, ensuite le cégep de Jonquière. Je suis pas allé à la baie par contre, mais j'imagine que c'est très bien organisé aussi. Et bien entendu, au Stade Soccer Saguenay, il y avait une ambiance là hier, mon dame, avec l'équipe de masculine Saguenay-Lac-Saint-Jean qui jouait un match contre la Mauricie, je crois, et puis ça s'est terminé au pointage de 2-2, oh. alors que c'était 1-1. Tu sais, chaque équipe joue au moins un match chaque jour. Hein. Quand tu gagnes, tu avances pour remporter dans les premières positions. Puis quand tu perds un match, ben tu vas jouer un autre match plus tard, mais ça va être pour des positions plus loin, puis pour les 8-9e positions, même pour les 15-16e positions. Mais hier, contre la Mauricie, vraiment, là, c'était 1-1. La Mauricie a marqué un but en fin de match, donc 2-1. La région a égalisé pour mettre ça 2-2. Et ça prend un gagnant parce que, comme je te dis, ça prend une équipe qui monte dans les positions de première place et
oui.
La perdant qui va vers le plus bas. Et on a perdu au tir au but. Ah. Moi, ma déception, j'ai mentionné sur ma page Facebook, ça a créé quelques réactions.
Oui,
ça a dérangé quelques personnes.
Mais c'est important de spécifier que c'est pas contre le tournoi et l'événement. Là.
Non, c'est ça exactement. C'est pour montrer aux gens aussi à Ville-Saguenay que cette infrastructure, cette structure-là, en tout cas, là, qui a été faite, et pas seulement juste pour jouer au soccer. Oui, c'est en grande partie, c'est pour nos jeunes de la région. Puis on est chanceux d'avoir ça. Les jeunes de soccer sont très chanceux d'avoir ça. Mais il faut penser aussi événementiel. Quand on pense événementiel dans le futur, c'est de recevoir des gens de d'autres régions dans des compétitions, dans des rencontres. Puis ça, ben, on l'a vu, je crois que le terrain du Stade Soccer Saguenay a été pris, le stade a été pris parce que le terrain de l'UQAC n'était pas tout à fait finalisé, n'était pas tout à fait prêt. Ça prenait 4 terrains. Donc, on a pris celui du stade, un très beau terrain, une très belle place, mais la vision pour les spectateurs, pour les parents, plus difficile un petit peu au niveau du filet. Moi, bon, la barre est là, tu ne peux pas l'enlever. Quand tu es assis, il y a une espèce de barre de métal qui t'empêche de voir. Ça, regarde, il y a une rangée d'estrades. Ça, c'est correct. Mais quand tu te lèves debout, ben, tu as un filet. Puis je pense que je me suis fait répondre un peu. Là, c'est au niveau de la sécurité et puis tout ça. Je suis bien d'accord, mais j'aurais cru que pour cet événement comme ça, ça aurait pu être possible, envisageable d'enlever ce filet-là et qu'il soit remis après la compétition. Mais peu importe. Le tournoi se fait, c'est super bon. Moi, c'était ma seule note négative, l'espèce de filet qui m'énervait un peu là, quand j'ai regardé le match. Mais quand même, il y avait une super ambiance au Stade Soccer Saguenay hier, là, en fin de journée. Là.
Excellent. Donc, ça se poursuit jusqu'à samedi. On sait que Stade Soccer Saguenay, Parc Saint-Jacques, Cégep de Jonquière, le parc également du côté de la baie, c'est là que ça se joue. Et ça va être quand même intéressant. C'est quand même intéressant, c'est du jeu relevé.
Très relevé, faut rappeler. Donc, demain, il y a des matchs encore pour les positions. Si je fais un tour rapide, là, je regarde pour notre équipe féminine, demain, vendredi 26 juillet, Saguenay-Lac-Saint-Jean contre Concordia au Stade de soccer Saguenay, justement, on va jouer là. Ensuite, notre autre équipe, on va jouer l'équipe de, ça c'est l'équipe de U13 masculin qui va jouer contre Sud-Ouest à 12h30 au terrain John Kane à la baie. Et la dernière équipe de la région, ça va être tôt, j'ai pas l'heure de celle-là, en tout cas, ça va être dans la journée aussi demain, là, je pense au Cégep de Jonquière, je suis pas certain, c'est un match de classement, il y a des demi-finales pour les champions, les grandes finales seront samedi le 27 juillet, les grosses finales se jouent à 12h30, 14h, je crois, là, tant du côté des gars que des filles, ça c'est les finales, mais comme je te disais au début de chronique, chaque équipe, chaque sélection régionale va jouer ses matchs, et ça va leur donner un classement à la fin de tout ça qui sera sûrement là, partagé sur les réseaux sociaux, à savoir où est-ce que nos équipes de la région se sont classées. C'est jamais évident non. Pour les équipes de Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que oui, le niveau augmente dans notre région, mais Il faut savoir que le niveau augmente partout à la grandeur du Québec, mais quand on voit qu'on est capable de rivaliser avec certaines régions, faire des bons matchs, ça nous donne l'information que notre soccer se développe, là, puis c'est intéressant de voir tout ça. Et grâce encore au Stade Soccer Saguenay et au Multisport Handball, où est-ce que maintenant on peut faire du soccer à l'année.
Oui, effectivement, puis je vois qu'il y a de l'intérêt, et bon, on est une région qui commence à avoir de plus en plus de nouveaux arrivants qui ont d'abord probablement le soccer comme premier sport. Un soir, je suis allé me promener sur les terrains du parc Moritz du côté du boulevard Mellon à Arvida, là, sur les terrains de Rio Tinto. Il y avait, je te dirais, une vingtaine de petits garçons de couleur qui jouaient au soccer. Puis je peux dire que c'était du calibre assez relevé, merci. Pour des petits jeunes de 12-13 ans, j'ai dit « tabarnouche, je jouerais pas contre eux autres ».
Oh, il y en a de plus en plus partout dans la région, mais c'est comme ça au Québec et c'est rendu, ça s'en vient dans notre région. Puis moi, ben je peux le voir à Alma aussi, moins qu'à Saguenay, j'en vois moins qu'à Saguenay, mais à Alma de plus en plus aussi, quand on a présenté des matchs de soccer international ou pendant les copains qu'on a présentés pendant l'Euro, c'est là qu'on voit là, que les gens viennent là, puis sont intéressés vers le foot, là, les Tunisiens, les Marocains. Alors, ça devient un beau lieu de rencontre pour tous ces gens-là. Là.
Parlons maintenant des Jeux olympiques. Ça commence officiellement demain, mais il y a certains matchs qui ont déjà été joués. Et c'est le cas de l'équipe féminine, les championnes en titre olympique, avec la médaille d'or en 2021. Sauf que ça a commencé sous une saga de tricherie avec l'histoire des drones. On a eu des sanctions et tout ça. Heureusement, les joueuses ne se sont pas fait écraser par ça. Une victoire importante de 2-1 contre la Nouvelle-Zélande.
Oui, écoute, la Nouvelle-Zélande avait surpris. Bon, d'abord, on va parler de cette histoire de drone-là. Très décevant de voir ça, là, de voir que... J'ai cru lire aujourd'hui par des responsables là, qui sont haut placés au niveau du soccer Québec là, qui ont dit que c'était peut-être pas la première fois qu'on voyait ça, ce genre d'affaire-là, puis peut-être que ça venait de même l'équipe masculine canadienne. J'espère que non. Là, c'est un petit peu une tâche là, pour notre soccer canadien qui, depuis quelques années, prend de l'ampleur et de l'expansion, puis on commence à performer sur la scène internationale. Je sais pas, il va sûrement y avoir des réflexions ou des études de voir à ce niveau-là, mais en tout cas, de voir sortir une nouvelle comme ça, c'est un peu décevant, avec l'entraîneur qui a pris un break pour le match contre la Nouvelle-Zélande, Beth Priestman, qui s'est suspendue elle-même.
Oui.
On ne savait même pas, peut-être, à un moment donné, est-ce que le Canada va perdre son match par défaut. Il y avait même ça dans l'air comme information. C'est pas arrivé, mais tant mieux pour l'équipe féminine canadienne. Belle entrée en jeu. Ils se sont fait marquer en début de match, mais le Canada, on a mis ça 1-1, et la Québécoise, là, Evelyne Vien, qui a marqué un but, là, puis qui a, comment je te dirais, qui au début n'avait pas été pris et que la sélection avait été mise comme remplaçante, et il y a eu une blessure, on l'a rappelé, et elle avait fait une coupe de sortie de déception, là, et c'est elle qui a marqué le but, la numéro 4 pour le Canada. Donc, le Canada remporte son premier match. Là, présentement, on a le match des deux autres équipes du pool, donc la Colombie et la France, c'est 2-0 pour la France. Le Canada, donc, va affronter la France dimanche. Comme match très intéressant. Ça va être peut-être le gros match du groupe, là, du groupe A. On jouera par la suite mardi ou mercredi prochain contre la Colombie. Donc, il faut que le Canada finisse dans les deux premiers parce qu'on a trois groupes, hein? Trois groupes de quatre sélections. On prend les deux premiers, ça fait six. Puis on va aller chercher les deux meilleurs troisièmes. Donc, le Canada, avec une victoire, ont des chances de sortir dans les troisièmes. Donc, on devrait être bon pour se rendre dans les quarts de finale. Et du côté masculin, bien, d'hommes, on a quatre groupes de quatre, donc 16 sélections qui sont là. On prend les deux premières là, qui vont aller en quart de finale. On a vu un match hier quand même assez... on a vu un match hier, justement, au Stade de France, quoi. C'était au Stade de France entre l'Argentine et le Maroc, toute qu'une entrée de jeu là, du tournoi olympique. Là. Ça a fini 2-1 pour le Maroc, alors qu'il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu. L'Argentine a égalisé en fin de match. On était sûr de se sauver avec une nulle, mais le but était refusé à la dernière minute. Donc, le Maroc est sorti avec la victoire. Il faut savoir, Dom, que dans les femmes, c'est les meilleures joueuses qui sont là, dans chaque nation.
Oui.
Tous les meilleures joueuses du Canada, de la France, c'est un peu comme la Coupe du Monde. C'est la même formule, c'est les meilleures. Mais dans les hommes, au niveau masculin, c'est du U23, Under 23.
Ah.
Mais on a le droit d'aller chercher trois joueurs de niveau plus haut.
OK.
On aurait pu avoir Mbappé. Avec Mbappé avait mentionné qu'il était intéressé à jouer avec l'équipe de France. Mais à un moment donné, le Real Madrid, son nouveau club, lui a dit « Tu choisis. Tu fais, choisis l'Euro ou tu choisis les Olympiques. » Alors là, à un moment donné, il a choisi l'Euro. Donc, on a vu l'Argentine. Mais Messi avait même été annoncé un peu. Mais Messi
ouais, c'est
a,
vrai.
A dit à un moment donné « Non, je ne vais pas là. J'ai déjà gagné les Olympiques. » Donc, on passe à autre chose, puis il a bien fait de ne pas se présenter là, surtout en France, parce que ça ne s'est pas bien terminé à Paris avec le PSG. Donc, moi, je suis bien content qu'il ne soit pas allé là. Mais oui, pour la compétition masculine, c'est trois sélections. Il y a trois joueurs de U20, en haut de U23 qui peuvent être là. Donc, ça va faire un très beau tournoi. Puis, tu sais, c'est tous des pros quand même, les joueurs qui sont là-dedans. Ils sont tous dans des équipes pros, là.
Et ça va être très intéressant. Mais ça va être quand même un calibre très relevé, même si ce sont des jeunes. Il va y avoir une fougue assez intéressante et des nouveaux visages qui risquent d'intéresser plusieurs équipes majeures pour ceux qui n'ont probablement pas de contrat.
Ben oui, puis c'est pour le futur du foot. Là, c'est les vedettes, les futures vedettes de la planète foot internationale au niveau masculin. Donc, puis quand on regarde la compétition, pourquoi qu'on n'a pas toutes les meilleures, ben, je crois que la FIFA a vu garder sa Coupe du Monde comme prioritaire au niveau masculin. Donc, on met cette coupe-là au niveau des Olympiques comme en deuxième choix, mais c'est quand même très, très intéressant. Puis je l'ai mentionné, Messi l'a remporté il y a pas 10, je ne sais pas en quelle année qu'il a gagné avec l'Argentine les Olympiques, mais c'est en début de sa carrière.
On revient plutôt ici, on parle un peu du CF Montréal. Hein. Il y a le samedi, un match quand même très important contre le FC Toronto. Ça a été un match tellement serré. Toronto l'a emporté 1-0 parce que, on disait que c'était un match de 6 points. On a l'habitude de dire ça au hockey, un match de 4 points, mais c'était égal entre les deux formations. L'équipe qui l'emportait prenait 3 points d'avance. CF a tout tenté, mais le Toronto FC a été le seul à trouver le fond du filet.
Oui, puis un but, je ne dirais pas controversé, mais il était que le joueur, c'était presque hors-jeu. Moi, je pensais qu'elle allait avoir encore hors-jeu sur ce but-là pour Toronto. Le but était accordé. La VAR, je ne suis même pas sûr qu'on est allé voir la VAR. Je ne sais pas quel angle qu'ils se sont pris, parce que sur des photos, là, on dirait que le joueur est hors-jeu, mais en tout cas, peu importe. Montréal n'a pas sorti, n'a pas été capable de marquer de but. Il aurait fallu être plus agressif, être capable de revenir de l'arrière, même si ce but-là peut être contestable. Mais ça arrive souvent au niveau du soccer, du football. C'est une grosse défaite, oui, parce que là, on se retrouve avec Toronto avec 30 points. Montréal, en perdant, tombe 11e avec 27 points. On n'est pas loin, tu sais. Si on regarde l'avant-dernière place, c'est à 25 points. Puis la Toronto en 8e est à 30 points. Donc, on a 5 points de différence entre la 8e et la 14e place. Fait que on voit que c'est un classement très serré. Mais là, il faut savoir, donc, qu'on est en break pour un mois.
Oui.
La Ligue Cup embarque. Et c'est là que Montréal va jouer deux matchs. On va jouer en fin de semaine à Orlando. On s'en va jouer contre Orlando. Donc, on est dans le groupe Montréal-Orlando. Et puis, on va jouer contre un club du Mexique, San Luis. C'est ça, c'est Orlando. Puis, c'est mardi soir prochain. Le match est à Montréal. Donc, San Luis est un club de la Liga MX qui, présentement, est en 10e position. Là. Donc, eux, ils viennent de recommencer le championnat au Mexique. Donc, c'est frais pour eux. Montréal, donc, on doit terminer dans les deux premières positions pour avancer dans le tournoi. C'est sûr que ça serait le fun que Montréal ait un beau cheminement, un beau parcours, parce que sinon, ça va être assez long d'attendre jusqu'à la fin de la Ligue Cup qui dure un mois. On va tomber en mode entraînement. Si on ne sort pas du groupe, on va tomber en mode pratique pendant un mois de temps. Mais à voir la suite de ça. Donc, ça commence samedi, c'est demain soir même, le match contre Orlando. Et puis après ça, mardi contre San Luis.
Est-ce qu'il y a une date de limite de transaction du côté de la MLS?
Je crois qu'il y a un mercato qui est ouvert là, présentement.
Okay.
Je n'ai pas la date exacte de ce mercato-là. Sauf que oui, est-ce que le CF va signer des joueurs? On en a parlé un peu. Il n'y a pas de nom qui a sorti. À voir qu'est-ce que le CF va faire dans cette fenêtre-là. En tout cas, est-ce que ça va bouger? Je ne suis pas certain. On va peut-être terminer la saison avec les joueurs, avec les membres de l'effectif qu'on a, et on verra par la suite. On va arriver en fin de saison, puis c'est certain que ça va être très serré, là, à savoir si on va faire les séries ou pas. J'ai l'impression que ça va ressembler un peu comme l'année passée, parce qu'on les a manqué de très peu. Là.
Effectivement.
Ouais.
Effectivement, mais petite transaction qui est survenue en début de semaine, Mason Toy, ça, oui, il y avait quelques rumeurs, c'était quand même un bon joueur, mais malheureusement, les blessures l'ont énormément ralenti, puis je pense que la compensation que le CF a reçue en retour, c'est quand même intéressant pour peut-être là, un possible mouvement. Si ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain.
Oui, exactement. C'est ça. Mais la blessure n'a pas aidé ce joueur-là. Il avait montré de belles qualités. Il avait marqué quelques buts, des buts importants. Mais à la fin de tout ça, le parcours nous montre que les blessures l'ont emporté. Donc, le CF l'a laissé aller. Ils ont fait leur évaluation, ça c'est certain. Donc, à voir la suite pour ce joueur-là. Et puis, voir qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher. Si ce n'est pas cette année, comme tu mentionnes, mais ça va être l'année prochaine, à voir.
Benoît Lavoie, toujours un plaisir de jaser soccer et bien de discuter la semaine prochaine avec les Olympiques qui seront lancés et de voir où nos équipes canadiennes seront rendues.
Yes, merci Dom. Puis j'invite les gens à aller voir les terrains. Encore demain, il y a des matchs toute la journée sur les quatre terrains. On rappelle au Cégep de Jonquière, au stade du Parc Saint-Jacques aussi, le stade de soccer Saguenay, le Parc John Cain à la baie. Donc, allez voir les matchs. C'est du beau soccer. Les jeunes de 13-14 ans, c'est les meilleurs 13-14 ans au Québec qui sont là. Et il y a des gens qui les regardent, ces jeunes-là, parce qu'après ça, c'est des jeunes qui peuvent se retrouver dans les académies de l'Impact, des affaires comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment un âge intéressant pour ces jeunes-là, puis pour le futur du soccer québécois. Merci, Dom.
Merci beaucoup, Benoît. Ah ben, c'est une grosse semaine encore une fois pour le soccer et le ballon rond, et autant dans la région et un peu partout dans le monde. Et avec les Olympiques, ça serait intéressant de suivre tout ça. Dans quelques instants, on va parler de baseball. Le baseball qui se poursuit, la saison qui avance. On a déjà dépassé la centaine de matchs dans la saison dans le baseball majeur. Mais avec Michel Bureau, on va parler de transactions. On va en parler de ce qui se passe également du côté de la Ligue Frontier. Les capitales de Québec vont très bien, mais également Ottawa et Trois-Rivières qui vont bien aussi. L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Alerte emploi.
Les usines de congélation du groupe Bleuet Sauvage du Québec sont à la recherche d'employés saisonniers et permanents pour les usines de Saint-Bruno, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Nous sommes le plus grand producteur de Bleuet Sauvage biologique sur la planète. Suivez régulièrement notre page Job Illico. Nous offrons des emplois dans des domaines tels que la production, la mécanique de machines fixes et l'assurance qualité. Le groupe Bleuet Sauvage du Québec, les meilleurs bleuets méritent les meilleurs talents.
Chez Kia Harold Auto, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada avec le Kia Seltos 2024. Embarquez dans un Kia Seltos 2024 et profitez d'offres de location et financement dès aujourd'hui. Kia Harold Auto, du mouvement vient l'inspiration.
Ne manquez pas les jeudis 8h05 dans l'émission Réveillez-vous, notre discussion avec Mario Vizina sur les nombreux spectacles gratuits qui sont présentés tout l'été à la pulperie de Chicoutimi. Et en prime, le menu des soirées cabaret avec Mario et ses invités. Tous les jeudis, 8h05, dans Réveillez-vous.
Baseball.
Oh oui, beaucoup d'activités également du côté du baseball et ça jouait également cet après-midi. Et il y a un exploit qui est survenu dans le match entre les Padres de San Diego et les Nationals de Washington. Un match sans point ni coup sûr. C'est le deuxième de la saison qui survient et c'est le lanceur des Padres, Dylan Cease, qui a réussi cet exploit, ne donnant que, en fait, je pense, c'est 2 buts sur balle ou 3 buts sur balle, 114 lancés. Et c'est quand même la 324e performance du genre dans l'histoire du baseball majeur. On en parle avec Michel Bureau. Salut Michel!
Salut Dominique, quand tu parles de match sans point ni coup sûr, le premier nom qui me vient à l'esprit dans l'histoire des expos, c'est bien sûr le numéro 26, Bill Stoneman.
Oui.
Qui en a réussi deux, un à Philadelphie puis un à Montréal.
Et je
garde un très bon souvenir de ça, bien sûr.
C'est quand même un exploit qui va être de plus en plus rare, parce que maintenant, ce qu'on fait avec les lanceurs, un 6 manches, 7 manches si ça va bien, mais là, de décider, parce qu'on aurait pu en avoir d'autres, des matchs sans point ni coup sûr plus tôt cette année, mais on a décidé de retirer le lanceur après 7 manches, même s'il avait quand même cette séquence-là. Mais du côté des Padres, on a décidé de garder le tout, et ça a été réussi. C'est un bel exploit.
Ben, c'est un très bel exploit, écoute. Et on se souviendra également du match parfait de Don Larson en série mondiale. C'est un exploit encore plus important de retirer tous les frappeurs dans l'ordre sans même donner un but sur balle. Un exploit qui ne sera pas battu. Il y a des records, Dominique, qui ne seront jamais battus.
Oui.
Et ça, c'en est un. Ce match parfait de Don Larson en 1956, si je ne m'abuse. Mais match en point de coup sûr, tu as raison de le souligner. Parce qu'aujourd'hui, dans le baseball moderne d'aujourd'hui, après six manches, il y a un lanceur qui met la table pour l'autre releveur qui vient fermer les livres. Alors, effectivement, exploit très rarissime au baseball de nos jours.
Oui, exactement, exactement. Allez, parlons un peu des Blue Jays. Hier, victoire contre les Rays de Tampa Bay. Actuellement, on est dans la quatrième manche. C'est 3-0 pour les Rays dans cette série de trois rencontres. On sait que les Jays ne feront pas les séries. Ils sont quelques matchs en bas de 500. On sait que ça va bouger d'ici la date limite des transactions. Il y en a plusieurs qui disent, si on veut faire une belle reconstruction, il faut échanger Guerrero. D'un autre qui dit, ben garde, échangez tout le monde, sauf Guerrero, faites de lui le joueur concession. T'es de quel côté, Michel?
Ah, oui, on garde Vladimir Guerrero. J'ai écouté un Vox Pop, j'ai été voir sur les réseaux Sportsnet, un Vox Pop qui a été réalisé auprès des partisans des Blue Jays de Toronto. On ne peut pas laisser partir Vladimir Guerrero. Depuis le mois de juin, Vladimir est le meilleur frappeur dans la Ligue américaine.
Oui.
Il a perdu du poids, mais c'est un... Écoute, il manquait un peu de hargne, mais je pense qu'il a retrouvé cette hargne qui fait de lui un joueur d'une classe à part. Non seulement maintenant il court les buts rapidement, mais il joue avec détermination. Défensivement, on ne peut absolument rien lui reprocher. On ne doit pas laisser partir Vladimir Guerrero. On doit le signer à très long terme, Vladimir, parce qu'il est indispensable pour les Blue Jays de Toronto. C'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Alors non, moi je suis dans le camp de Vladimir Guerrero Jr. On doit garder Vladimir Guerrero Jr.
Et j'écoutais Roger Brulotte hier, après la rencontre, la victoire, dit il va coûter 300 millions, bien, payez-le 300 millions. Je pense que c'est ça qu'il vaut.
Bien, exactement. Et puis, écoute, des statistiques là, depuis juin de Vladimir, meilleures que celles d'Aaron Judge, meilleures que celles d'Otani. Alors, il doit avoir un contrat un peu semblable à celui d'Otani ou encore celui d'Aaron Judge. On doit absolument garder Vladimir Guerrero Jr. La question ne se pose même pas. Et ceux qui ont des interrogations, regarde, Vladimir est encore le meilleur frappeur de circuit, le meilleur chez les points produits, le meilleur avec la moyenne au bâton. Alors, on doit construire autour de Vladimir. Peut-être laisser partir Bichette, mais pas Vladimir Guerrero, s'il vous plaît.
Et du côté des lanceurs, ben, je pense que c'est là que ça risque d'être plus convoité. Et je pense entre autres à Yimi Garcia, qui y a plusieurs équipes qui font de l'œil.
Ben, non seulement Garcia, puis tu as raison, il est revenu en force avec les Blue Jays après avoir été blessé. Mais le nom de Chris Bassett revient souvent dans les conversations. Le nom de Kikuchi également revient souvent dans les conversations. Et la dernière rumeur, et ça c'est intéressant, c'est que les Twins du Minnesota seraient intéressés par Kikuchi en retour de qui? Ben, en retour d'Edouard Julien.
Ah oui? Ah ben ça!
Le gars de la région de Québec, écoute, ça serait fantastique comme transaction parce que ce qu'on peut reprocher à Kikuchi, puis tu te souviens de Pedro Martinez, il disait qu'il était gros comme un pou, mais c'est lui qui était le boss au monticule. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur de tasser les frappeurs du marbre avec plusieurs lancers à l'intérieur. Ce que Kikuchi ne fait pas, et c'est la raison pour laquelle il a une fiche d'épistère. Il est timide, il n'ose pas lancer trop à l'intérieur. Moi, je pense que c'est pas un lanceur qui... On peut pas parier sur lui dans les années à venir. Alors, oui, ça serait une très bonne transaction. Kikuchi contre Edouard Julien, puis Edouard de revenir chez lui au Canada, d'avoir Vladimir Guerrero comme coéquipier, ça va l'aider énormément. Moi, je souhaite que cette transaction-là se matérialise. Il y a d'autres noms également mentionnés dans les rumeurs de transactions. On sait que la date limite des transactions, c'est le 30 juillet prochain.
Oui.
Là, il y a le nom du receveur Danny Jansen qui suscite énormément d'intérêt auprès de plusieurs équipes dans le baseball majeur parce que Danny Jansen a quand même démontré qu'il pouvait être un receveur numéro un. Alors, mais là, du côté des Blue Jays, on doit aller chercher, par contre, tu sais, au niveau de la relève, de la profondeur, ils n'ont pas tellement de profondeur. Mais ceux qu'on voit en ce moment, moi, j'aime beaucoup Spencer Howard, qui fait bon contact avec la balle. Ce gars-là devrait toujours être le deuxième frappeur dans l'alignement. Il fait toujours bon contact avec la balle. Il y a également Ernie Clement, qui impressionne, puis Jimenez. Alors, au moins, il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel du côté des Blue Jays. Et moi, ce que j'ai vu hier de Ariel Rodriguez, le Cubain au Monticule,
Oui. Ben
c'était très rassurant. Il a été très solide hier, Ariel Rodriguez, dans cette victoire contre les Rays de Tampa Bay. Écoute, il a retiré les 9-12 premiers frappeurs à lui faire face. Il a donné qu'un point pendant son court séjour au Monticule. Seulement 2 coups sûrs. C'est un gars qui a un excellent contrôle. Il a été blessé. Mais là, je pense que d'ici la fin de l'année, il va démontrer qu'il mérite d'être considéré comme un des lanceurs partants numéro 1 ou 2 du côté des Blue Jays. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Blue Jays de Toronto. Il y a quand même de la lumière au bout du tunnel. Puis Ariel Rodriguez, d'après moi, va faire partie des plans pour la saison prochaine parce que, veut, veut pas, du côté des Blue Jays, on pense déjà en fonction de 2025.
Quand on parle de Kikuchi, quand on parle de Bassitt, quand on parle peut-être de Garcia, qu'est-ce que les Jays pourraient recevoir en retour? Probablement pas tant de joueurs établis, mais sûrement des espoirs.
Bien, des espoirs. Puis en ont laissé partir un. Tu te rappelles, le receveur qui était bourré de talent puis qui avait un super avenir, on l'a laissé partir. Là, il faut absolument aller chercher un autre receveur parce que Kirk, Alessandro Kirk, c'est pas un receveur numéro 1.
Non.
C'est un bon receveur numéro 2, mais pas un receveur numéro 1. Alors, il faut aller chercher un prospect. Et je pense qu'ils ont de quoi offrir parce qu'il y a plusieurs équipes là, qui magasinent, qui sont dans des courses au championnat puis qui vont vouloir transiger et aller chercher des lanceurs établis. Je pense aux Twins du Minnesota. Je pense aux Guardians de Cleveland. Je pense aux Astros de Houston qui ont fait toute une remontée depuis le match des Étoiles. Je pense aux Dodgers de Los Angeles, les Mets de New York notamment.
Oui.
Alors, ça va bouger beaucoup d'ici le 30 juillet. Je pense, moi, qu'à compter de lundi, là, il va y avoir beaucoup de mouvements personnels. Je pense que les Blue Jays vont être vendeurs. Mais au risque de me répéter, ne touchez pas à Vladimir Guerrero Jr. pour l'amour du Saint-Ciel.
Tu as parlé des Mets de New York. Quel retour depuis le début du mois de juin, alors qu'il y avait un dossier de 24-35. Ils sont rendus 53-48. C'est tout un revirement de situation. Puis hier, oh la honte au Yankee Stadium. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des Yankees?
Hey, puis non seulement, qu'est-ce qui se passe? T'as raison de le mentionner. Avec les Astros de Houston, la plus belle remontée depuis le début, là, c'est les Mets de New York, effectivement. Et Pete Alonso, qui joue son rôle de meneur d'homme, qui veut finir sa carrière à New York. Il est tout feu, tout flamme. Les Mets sont très, très, très surprenants. Et du côté des Yankees, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont eu des blessés. Mais là, Garrett Cole, qui est revenu au jeu, depuis qu'il est revenu au jeu, n'est plus le même. Et ça, c'est inquiétant du côté des Yankees de New York. D'autant plus que Garrett Cole était considéré comme le lanceur numéro 1 de cette équipe-là.
Mais...
D'autant plus qu'on a payé le gros prix pour avoir Garrett Cole. Et là, il ne livre pas la marchandise. Et ça, c'est très inquiétant pour les Blue Jays, les Yankees de New York.
Effectivement. Et bien, je pense que les Yankees devront bouger pour d'ici la date limite des transactions. On veut aller chercher un frappeur, même si on a Judge, même si on a Soto et tout. Puis ça va prendre, je pense, un ou deux lanceurs.
Ben, ça pourrait être Bassitt qui pourrait prendre la direction.
Ben, peut-être, oui.
Oui, des Yankees, parce que Bassitt, quand même, c'est lui qui lance cet après-midi. Quand même intéressant comme lanceur partant. C'est un lanceur d'expérience. C'est un gars qui a roulé sa bosse, mais qui a encore plusieurs bonnes manches à donner. Et je pense qu'il pourrait être très intéressant pour les Yankees de New York. Suite au déboire de Garrett Cole, on se doit d'aller chercher un autre partant, si possible, d'expérience, pour rétablir les choses. Puis je pense que Bassitt pourrait être intéressant pour les Yankees de New York.
Avant de quitter, Michel, tu veux parler, et puis ça me fait plaisir d'en parler également, parler de la Ligue Frontière. La Ligue Frontière qui a 3 équipes canadiennes, les Capitales de Québec, les Aigles de Trois-Rivières et également les Titans d'Ottawa. Actuellement, les 3 formations vont très bien. Les 3 jouent pour plus de 500. Les Capitales sont en tête de section. 3 matchs devant les Boulders de New York. Quel beau baseball. Ceux qui ne sont jamais allés voir un match là, de cette ligue-là, allez-y. C'était le fun dans le temps de la Ligue Can-Am, mais maintenant avec une ligue à 16 équipes, Colin, que c'est beau.
Ah, et puis quel spectacle. Écoute, la fin de semaine dernière, là, les Capitals ont refusé du monde. Le stade était plein pour 3 matchs consécutifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Aigles de Trois-Rivières qui allaient nulle part l'an passé, mais là, sont très compétitifs. Ça fait en sorte que quand Québec visite les Aigles de Trois-Rivières, bien, les assistances vont en augmentant considérablement. T'sais. Les meilleures assistances pour les Aigles de Trois-Rivières, c'est quand les Capitales de Québec ou les Titans d'Ottawa sont les visitants. Alors, effectivement, les 3 équipes canadiennes, Trois-Rivières, Québec et Ottawa, vont très, très, très bien. Et ça promet. Et le 3 août prochain, soit-il en passant, puisque tu m'ouvres la porte considérant la Ligue Frontier, ben les anciens expos vont être de passage tout juste avant le match contre les Titans d'Ottawa. Ça, c'est le 3 août. Ça va être intéressant. Claude Raymond va être là. On m'a dit que Brent Smith, l'ancien lanceur des Expos, va être là également. Denis Boucher va être là aussi. Alors, d'autres joueurs, Chad Cordero aussi va être là. Alors, ça va être intéressant pour les amateurs de rencontrer les anciens Expos. Et tout de suite après, le match contre les Titans d'Ottawa qui chauffe les capitales au classement. Ça va donner du très, très bon baseball. Et le 20 août, une série importante aussi entre les capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières d'ici la fin de la saison. Ça va être du très, très bon baseball. Là. Dominique, tu as parfaitement raison. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir 2-3 matchs à venir jusqu'à maintenant. Puis il y a tout un engouement. Il ne manque qu'une équipe, soit de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou une équipe de Montréal, dans la Ligue Frontier, ce serait formidable.
Absolument, absolument. On ne sait jamais. Hein, dossier à suivre, Michel Bureau. Merci beaucoup.
Absolument. Merci, Dominique.
16h28, on rappelle, les voyageurs sont en action ce soir du côté du Stade Canac, justement, où les capitales ont leur domicile. Mais là, on parle de Junior Elite contre les Diamants de Québec. C'est à 19h30. Thomas Otis sera le lanceur partant pour les voyageurs. Et les deux équipes vont se retrouver samedi soir, ici, au Stade Richard Desmeules, à compter de 19h. On ferme le vestiaire dans quelques instants. Bonhomme jaune là, qui me fait des grimaces en avant. Là, on va aller le rejoindre dans le retour.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 ans. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
l'Étoile Dodge Chrysler.